having a good time.
Bienvenue dans l'Open Mic.
Next up on the mic.
Open Mic, Open Mic.
L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct.
Open Mic, Open Mic.
Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ah, félicitations aux Panthers de la Floride qui ont remporté la Coupe Stanley hier soir, tel que je l'avais prédit. Appelez-moi Jojo Marceau.
Ah, oh, moi, j'ai plein de raisons pour lesquelles je suis pas contente de ça. La première, ça te donne raison.
J'ai regardé mon bol de riz, puis là, tout est aligné. Mais c'est les Panthers qui vont gagner. Puis voilà, c'est fait. C'est... On va passer à d'autres choses. Malgré le fait que j'aurais aimé avoir un match vendredi. Et là, s'il y avait un match vendredi, je switchais de bord. C'était Go Canada Go.
Grosse girouette.
Mais hier, ça n'a pas été un super de bon match pour les Oilers d'Edmonton qui l'ont échappé.
Il était raide.
Pourtant, de bonnes mises en échec. Des passes qui n'étaient pas toujours sur le tape, comme on dit en bon français. Et un gardien de but qui était plus que chambranlant hier en Stuart Skinner. Donc voilà, c'est l'histoire du match d'hier. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais sachez que si vous détestez le hockey, on n'en parlera pas jusqu'au repêchage, dans quelques jours.
Puis vous allez quand même en parler d'ici le repêchage.
Peut-être. Ouh. J'ai déjà hâte au camp d'entraînement du Canadien.
Ah oui, moi aussi, là, je m'en peux plus. Là.
Oui, yeah. Ben oui, on Ouh. Est comme ça. On
oui.
est comme ça.
Je préfère mes soirées.
Mais voilà, victoire de 5-1 des Panthers de la Floride sur les Oilers d'Edmonton. Deux fois en ligne que les Panthers remportent la Coupe Stanley. Brad Marchand, qui était un des joueurs que je détestais le plus dans la Ligue nationale de hockey, du temps où il était chez les Bruins de Boston, nous a montré encore une fois à quel point ce gars-là peut changer l'issue d'un match. C'est un game changer, changer l'issue d'une série. Il est juste hallucinant comme joueur. Puis sans mentionner que tous les autres joueurs chez les Panthers étaient incroyables aussi. Non, c'était quelque chose. Mais Brad Marchand, demain matin, je le prends dans mon équipe. Là.
Ah, tu disais?
Demain matin, je le prends dans mon équipe.
J'étais déconcentré.
Oui! T'es encore là? Faut dire que madame a passé la soirée avec Denis Coderre hier.
C'est pas prévu, là. Dis pas ça de même.
Et je sais que je garde toujours tout ce qu'on me dit pour moi, mais c'est pas vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Pascal, hier, m'envoie une photo en me disant « Hey, c'est-tu Denis Coderre? Il ressemble. » Sur la photo, on voit pas le visage de Denis Coderre, on voit le cul de Denis Coderre.
Ah, oh non, non, on dit le dos de Denis Coderre, là.
Et je dis « C'est son cul, c'est probablement lui. » C'était lui.
C'était lui.
Puis, t'es-tu fait un nouvel ami?
Bien, j'étais avec plein de monde de la radio hier parce qu'on allait à l'ouverture du Moras au Grand Allée. Là. On est vraiment content de voir cette institution-là qui prend place à Québec. Mais l'affaire, c'est que j'étais aussi avec un de mes bons potes de la radio avec lequel je ne travaille plus. Puis, il me connaît. Donc, moi, je suis dans cette salle-là, puis je vois Denis Coderre. On vient de faire l'entrevue avec lui, quoi, une semaine et demie environ?
Denis Coderre, ouais, semaine passée.
Puis, on a couru après pendant un an. Facile.
Oui. Ben, il me bannit aussi de faire oui. Facebook parce que.
Je le disais autrement, là, mais oui, c'est à cause de toi.
J'ai mis un montage sur Facebook pour. Je voulais soumettre la candidature de Denis Coderre pour être le prochain pape parce que l'autre pape était décédé. Puis il a vraiment pas aimé ça. Fait qu'il m'a banni de ses amis Facebook.
Oh, puis au-delà de ça, là, je veux dire, t'es pas non plus. T'as pas la langue dans ta poche quand vient le temps de commenter de la politique ou des opinions ou des choses comme ça. Puis Denis Coderre a fait beaucoup l'actualité. Mais puis t'avais ton mot à dire.
Êtes-vous tous de même, vous autres?
Tu veux dire?
Ben, quand quelqu'un dit quelque chose qui peut être défavorable par rapport à vous, vous le cancellez de votre vie?
Ben non, mais je pense qu'à un moment donné, il a été malade, puis il devait être écœuré aussi de t'entendre avec ta langue sale.
Ah, pour ce qui est de sa maladie, puis de voir à quel point il s'en est remis de tout ça. C'est un accident qu'il y a eu, là. C'est pas une maladie. De voir à quel point il s'en est remis de tout ça, je l'ai félicité et tout ça. Mais n'en demeure pas moins que Denis Coderre, c'est un personnage. Le maire Labeaume, c'était un personnage. Ouais. Puis des fois, ben, tu rapportes les choses qui sont positives à leur égard, puis des fois, tu rapportes les choses qui sont négatives à leur égard. Et si ces gens-là sont assez faibles pour te retirer de leur cercle d'entrevue, parce que « Ah ouais, mais tu t'es pas favorable à ce que je dis, fait que j'irai plus en onde avec toi », ben, il mérite pas d'être en politique.
Sauf qu'il est venu en onde, puis l'entrevue a fait en sorte que maintenant, il va revenir en onde si on lui propose de venir.
Oui.
Parce que si vous étiez là dans Marceau le midi à ce moment-là, on a eu beaucoup de fun avec Denis Coderre, mais on n'a pas esquivé des questions.
Mais je suis un gars sympathique. C'est juste que quand c'est négatif, faut le dire. Moi, j'embarquerai jamais dans cette gang d'animateurs et d'animatrices de radio-là qui flattent le dos du politicien dans l'espoir qu'il revienne la semaine prochaine. Quand les policiers m'appellent pas, je trouve que c'est une bonne affaire parce que c'est moi qui ai pogné pour les appeler. Mais si les policiers m'appelaient tout le temps, Pascal, de toutes les parties, en me disant « Hey Yann, j'aimerais ça faire partie de ton émission aujourd'hui », Mais je me dirais que c'est parce que je lui liche le cul.
Mais en fait, il faut toujours être aux aguets de savoir si on est complaisant.
Exact.
Dans ce temps-là.
Exact. Mais tu sais, Denis Coderre, on a posé les questions qu'on avait posées la semaine dernière.
Il était bon joueur.
On l'a brassé un peu. On s'est amusé. Un peu comme Denis peut s'amuser avec le maire Marchand quand il vient faire son tour. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le maire Marchand vient faire son tour ce soir.
Supposé.
Donc, il va y avoir des questions qui ne seront pas évidentes pour le maire Marchand, mais il va y avoir des jokes qui vont se faire. Puis l'idée, c'est de ne jamais être complaisant. Puis je ne travaillerai jamais pour une station de radio qu'il l'est complaisante. Jamais. On a-tu plus d'affinité avec des politiciens? Ben la réponse, c'est oui. T'sais. J'ai de la misère à vous voyez Éric Duhaime. Même toi, tu le vois pas.
Mais j'ai travaillé avec.
Ben, oui, je sais. Mais techniquement, on devrait toutes les vous voyez pour conserver une distance. Fait qu'Éric Duhaime, faut que je le vous voie la prochaine fois. On va trouver ça bizarre. Mais pour les autres, je les vouvoie toute la gang.
Oui, mais il y a une distance aussi qui est hypocrite. Mettons, si on s'en va en onde, puis on le vouvoie, puis tout ça, mais qu'on ne dit pas que j'ai travaillé avec lui, que j'ai pas... Puis après, ça ne veut rien dire sur mes allégeances politiques. Si je suis d'accord avec Éric Duhaime ou pas, je veux dire, notre travail, puis nos opinions, on le dit un petit peu trop pour certains, mais on les dit chaque jour. Donc...
À partir du moment où Duhaime va être un politicien là, qui va être élu, ça va être une distance encore plus éloignée.
Ça pour dire que Denis Coderre, hier, était à l'événement, puis c'était bien drôle parce que je suis allée me présenter.
Si tu deviens politicien, je vais te vous voyer, puis on va être encore plus distant qu'on l'est là.
Ça va être dur de faire. Écoute, là, t'as vu la séance photo, on avait de la misère à prendre une photo collée. Là.
Si Antonine devient politicienne un jour, ce que je pense qu'elle pourrait être, c'est une femme exceptionnelle, Antonine. Elle est bonne communicatrice, elle suit les dossiers comme pas possible. Ben, je vais être obligé de me prendre mes distances avec elle.
Oui, pas d'enfermement.
Non, c'est ça. On est comme ça.
Bon, on travaille pour nos auditeurs.
Fait que toi, t'as passé la soirée avec Denis Coderre.
Oui.
T'as-tu parlé de ses vieilles histoires?
Mais tu sais, il y a ça tout le temps avec le politicien aussi, c'est qu'il y a la personne derrière. Fait que des fois, t'es pas en accord avec le politicien ou la politicienne, mais tu peux être quand même capable de trouver un bon moment avec la personne. Puis ça m'a fait
vraiment...
Salut, Max! Denis Coderre, super sympathique, il m'a parlé de Jean Chrétien. Il m'a parlé de la vieille garde politique, puis dit qu'il y en a pas beaucoup. Là. Il reste pas beaucoup des derniers Mohicans là, en politique, puis la façon justement de se battre de cette manière-là. Ça a été une bonne discussion. Fort sympathique, M. Coderre, comme personne. Clairement pas détaché de la politique. Je te garantis qui n'est pas détaché de la politique.
Tu sais, là, je vais te dire quelque chose, là. J'ai l'impression qu'il va vouloir se présenter pour le Parti conservateur du Québec.
Il n'a pas décroché de la politique.
J'espère juste qu'Éric Duhaime n'embarquera pas là-dedans.
Tu sais, les deux, ils ont eu un certain revifi à un moment donné. Ils ne s'entendaient pas. Est-ce qu'ils se sont parlé, puis
là,
finalement,
semaines,
ils se sont
c'est
trouvés... C'est ça. Est-ce qu'après ça, ils se sont parlé, puis ils se sont trouvés intéressants et, mettons, favorables l'un pour l'autre? Favorables pour un candidat avec la notoriété pour Éric Duhaime? Puis favorable pour M. Coderre s'il décide de retourner en politique. Mais ça, là, on est des petites anecdotes là, de paperasse
mais
de fond de grande allée.
Ça sert à ça. T'sais, j'espère juste qu'Éric Duhaime ne prendra pas des candidats qui ont plus besoin de la politique que la politique a besoin d'eux.
Ben, il fera bien ce qu'il veut.
C'est le cas pour ce qui est de Denis Coderre.
On ne commencera pas à conseiller un politicien. La seule chose, c'est que pour la suite, ce sera les électeurs
conseille
qui
pas.
Vont choisir.
Je te dis que je veux pas qu'ils rentrent Denis Coderre, le Parti conservateur du Québec. Ça va bien, là, les conservateurs à Québec, là, de ce que je comprends. J'ai vu les sondages Palace sont à la même égalité dans certains comtés que le Parti québécois, ce qui est assez hot, là, donc on les salue.
Mais... Hey, Pablo Rodriguez a fait monter l'adhésion au Parti libéral au Québec aussi, là, rendu côte à côte avec les conservateurs. Mm-hmm. Il refait monter la flamme. Je ne sais pas s'il va la maintenir. Là.
Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être lors de l'élection. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui voient une autre opportunité avec les libéraux maintenant. Fait qu'il n'y a pas juste deux, trois joueurs. Là. Il y en a plusieurs maintenant.
Mm-hmm.
Donc, est-ce qu'il t'a appris quelque chose, Coderre?
Bien, comme je te disais, moi, je ne sens pas qu'il a décroché de la politique, mais pas une miette.
Ça s'est fini comment?
Très relax. Il est venu me saluer avant de partir.
C'est vrai?
Oui.
Bon,
un poli.
C'était quoi ce restaurant-là?
C'est le Moras au Grand Allée. C'est le groupe Maestro, donc c'est Fabio, c'est l'Atelier, c'est l'Ophélia qui ont ouvert dans l'ancien local du McDonald's, un resto italien, où on met de l'avant le Prosecco, on met de l'avant les pâtes. C'est fou parce que sur leurs réseaux sociaux, c'est rare, j'avais jamais vu ça vraiment à Québec, là, un restaurant qui fait des capsules sur l'ouverture. Fait que, en ce qui concerne les rénovations, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire comme démarche administrative aussi, qui se sont plantés, puis ils expliquaient sur leur capsule, il y a peut-être un mois, qu'ils avaient fait venir un chef italien de l'Italie. Italie. Moi, ça me rappelle genre Clotaire Rapaille, ou ça me rappelle, je sais pas moi, des Mukendi de ce monde, ou qui s'inventent une grande vie ici au Québec. Là, pis, en tout cas, ils ont fait venir un chef, puis ils l'ont fait venir à gros prix. Là. Il a dit, toi, on va venir, tu vas venir être consultant, puis tu vas nous faire des menus. Puis le gars est, oui, j'arrive. Pis là, s'en va au grand marché de Québec, ouais. Achète plein de choses pour des milliers de dollars de nourriture puis de produits. Mm-hmm. Puis le gars, il arrête pas de jacasser, puis il cuisine pas, puis il dit, à la fin de la journée, je vous en fais goûter 20 plats. Il n'y a rien sur la table. Pour au final, ils peuvent pas l'accuser d'être un fraudeur, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Puis ce qui s'est passé, c'est que ça faisait pas l'affaire. Ils l'ont renvoyé en Italie. Puis après ça, ils ont continué leur démarche, puis ils ont trouvé d'autres personnes, puis ils ont ouvert le Mora. Mais écoute, là, même en restauration, t'as des Clotaire Rapaille.
Ouais, des Clotaire Rapaille. T'avais aussi...
Il y en a-tu qui s'en rappellent de Clotaire Rapaille?
Jean-Claude Apollo.
Oui.
Qui disait que c'était un grand chef, finalement. Oui. Il disait qu'il était Giovanni Apollo, finalement.
Oui,
c'était pas ça.
Giovanni Apollo. C'est vrai que si je change mon nom, là, Pasquale, quelque chose, là, je suis plus crédible, moi. Ça peut-tu m'aider? Mais ça me fascine. Ouais. Ça me fascine.
Hey, des trucs à jaser aujourd'hui avec vous autres. Les intoxications à l'insu des victimes. Mm-hmm. Je sais pas si toi, tu as déjà été victime de ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Les fois où je me suis intoxiqué par l'alcool, c'était bien intentionnel. Puis ça a été une fois ou deux fois quand j'étais très jeune. Puis par la suite, j'ai tout le temps gardé un certain contrôle de moi-même avec l'alcool. Mais quand j'étais jeune, j'ai pris une brosse au 80%, 90%.
Ouh! Ça, l'alcool coûtait pas cher, mais coûtait le décapant.
On
là.
Était dans le coin de Saint-Tite-des-Caps. C'était une maison qui avait sorti ça. Puis là, je voulais lui montrer que j'étais hot. Puis j'avais pris deux verres de ça. Puis j'ai passé out sur le divan.
Ouf,
j'ai dormi là jusqu'au lendemain. Puis ça m'a assez convaincu de ne pas me détruire. T'es-tu déjà été intoxiqué à ton insu?
Bien, comme quelqu'un qui aurait mis quelque chose dans mes verres. C'est de ça qu'on parle.
Ouais.
Pas trop prendre de verre ou prendre du 90% ou 85%. J'ai l'impression que ça m'est arrivé une fois, mais j'ai été vraiment bien entourée. Donc, il ne s'est rien passé. Par contre, quelqu'un de très près de moi, c'est arrivé deux fois. Puis ça, c'était vraiment pas jojo. À Québec, là, de demander des caméras de surveillance, ça n'a pas été facile auprès de tenanciers de bar. Se ramasser dans un banc de neige l'hiver parce qu'ils pensaient que la fille était trop saoule, mais elle s'était faite mettre du GHB, puis ils l'ont juste swingé dans la porte arrière. Si c'était pas de dépasser dans la ruelle, elle était là, elle aurait... Tu sais, il n'y avait pas le... C'était pas aussi con... T'sais, les gens n'étaient pas aussi concernés et bienveillants là, il y a peut-être 15 ans, 20 ans de ça. Puis c'était assez récurrent, mais pas assez jasé à ce moment-là.
OK. Est-ce que toi, dans ton cas, t'as porté plainte?
Non, parce que je sais pas d'où ça venait. Okay. J'étais avec une fille que tu connais très bien, Laurence Gagnon.
Ouais.
Fait que c'est une de mes meilleures amies dans la vie. On était jeunes, on était à l'université, puis on est sortis dans un bar.
T'avais pris combien de verres? T'es-tu compté?
Bien, c'est ça, là. Tu sais, l'eau, elle avait dit, voyons, on a bu 2-3 verres, puis nous autres, on a fait ATM, là. On était capable, pas à peu près, de faire la fête en arts et technologies du média du côté du Saguenay, là. On avait tout donné. Fait que Laurence, elle nous avait vus dans diverses situations. Et ce soir-là, c'était 2-3 verres, puis à un moment donné, c'est du tac au tac. Fait que c'est ça qui était un peu alarmant. Puis j'étais très bien entourée, fait que ça a été super. Là. Elle m'a ramenée chez elle, mais pas filée. Là. Mais perdre conscience de certains moments, pas me rappeler qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu la présomption de croire que c'est arrivé.
Lutte contre les intoxications à l'insu des victimes. Il y a le gouvernement du Québec qui a dévoilé le premier bilan de ces mesures. Ça s'est fait hier, puis c'est pour lutter contre le fléau des personnes intoxiquées à leur insu. C'est le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec qui a traité 344 trousses entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024. Pis selon les données de ce laboratoire-là, 84 % des victimes des intoxications sont des hommes ou femmes?
Femmes.
84 % c'est des femmes qui sont victimes de ces intoxications-là. 51 % de ces femmes-là sont âgées de moins de 24 ans. Donc, on commence à voir le topo là, de tu sais, les agresseurs, si on peut les appeler ainsi. On voit qui ils ciblent. Environ 72 % des cas d'intoxication ont été dans des lieux publics. Et parmi les 59 différentes substances détectées... 59, Pascal! Parmi les 59 différentes substances détectées par le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec, l'alcool est la substance la plus utilisée dans 61% des cas d'intoxication. Selon le biologiste Nicolas Tremblay, les mesures permettent aux policiers d'avoir une preuve scientifique de l'intoxication subie par les victimes. Ils ont une preuve que quelque chose s'est passé, donc ça vient jouer un peu le rôle de collecteur d'informations pour alimenter les décideurs, les gens au gouvernement, les corps policiers, les partenaires, le ministère de la Santé, mais aussi de donner des réponses aux victimes. Sur 530 dossiers, Pascal, qui ont été ouverts par les policiers à la grandeur du Québec, c'est un petit peu plus que la moitié qui ont été fermés sans accusation. C'est 286 qui ont été fermés sans accusation. Uniquement 8 dossiers ont été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Pascal, 530 dossiers ouverts, 8 dossiers qui ont été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Puis,
à ce niveau-là.
L'affaire, c'est que le travail n'est pas juste sur la détection ou de savoir que tu étais drogué. C'est de se rendre assez rapidement à l'hôpital pour être capable, ou dans un n'importe quel département où on est capable de prendre des prises de sang et d'identifier ce que tu as dans ton corps. Parce que si c'est le GHB, ça part vite, c'est éliminé, il n'y a pas beaucoup de traces. Après ça, c'est d'avoir la possibilité de checker les caméras des entreprises pour voir c'est qui, là, les genres de présumés criminels dans des bars qui mettent la drogue dans les verres.
Ouais.
Ça, c'est difficile à avoir. Fait que moi, je suis même pas surprise qu'il y ait juste 8 dossiers, parce que d'être capable de mettre la main sur qui a fait ça avec des preuves tangibles pour que ça se rende en cours, il est encore plus là le problème, parce que ça devrait être fait avec une genre de fluidité et collaboration totale.
Fait que mettons 530 dossiers, on va mettre ça à 500. Fait que mettons qu'on met ça sur 1000. Ce serait quoi? 80, c'est 0,8%? Ouais, c'est ça. 0,8% des cas qui se ramassent directement là-bas.
Qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle pas un présumé agresseur ou quelqu'un qui va mettre de la drogue dans un verre. Quand ce qu'on contrôle, c'est le après. C'est quoi qu'on prend comme disposition? Il y a des bars maintenant qui ont des verres, des sous-verres, où tu peux tester un petit peu ton drink pour savoir s'il y a de la drogue dedans. Ça va plus loin aussi. Il y a une portion qu'on parle pas dans l'article parce que c'est pas ça le but, mais c'est interrelié. Maintenant, il y en a qui utilisent le GHB pour leur consommation personnelle. Fait que pour eux avoir du plaisir, ce microdose au GHB, un peu comme une petite microdose, mettons, aux champignons magiques, le GHB est rendu populaire auprès des jeunes pour avoir des effets de drogue dans ton corps qui ne sont pas la cocaïne et autres qui coûtent extrêmement cher. Ça, tu peux peut-être l'échapper. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement criminel. Pour le reste aussi, dans tout ça, il y en a qui le font, pas pour agresser quelqu'un, mais juste pour rire de la personne ou voler son portefeuille dans la soirée. Ça, on ne voyait pas ça, là, mais dans les dernières années, ça a été énormément rapporté dans les bars. Puis il y a un aspect hyper important quand on parle que ça se fait dans les lieux publics majoritairement. On dit 72% des cas d'intoxication ont été dans les lieux publics. Sont où les autres lieux? Bien, je te raconte une histoire. J'ai une amie qui est allée sur une date Tinder il y a peut-être 6 ans. Puis ça lui est arrivé, mais elle n'a pas de preuve. Parce qu'elle était juste one-on-one avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas dans un appartement.
Ouais. Elle aurait pu quand même aller au service de police
Tout a été fait. Elle n'a pas pris de chance.
Ils ont-tu détecté quelque chose?
Ben c'est ça. Dans le terme d'heure, mettons, ils ont détecté quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, ils n'ont pas de preuves pour accuser la personne avec qui elle était, là. C'est super complexe, là.
Un petit breaking news, c'est un article de Nicolas Lachance qui est disponible sur TVA Nouvelles. On le salue, les gens de TVA qui ont été les premiers sur cette nouvelle-là. C'est les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption, donc l'UPAC, qui sont à Québec dans les bureaux de l'assurance automobile du Québec, donc la SAAC, pour mener une perquisition dans le dossier de Saclic. Ça regarde mal. Ça regarde mal pour Saclic et les gens qui ont travaillé à l'intérieur. Visiblement, il y a des gens qui ont bénéficié de quelques passe-droits, de grosses augmentations de salaire, puis qui ont caché des choses. Là, de voir que l'UPAC s'intéresse à leur dossier, je trouve ça franchement intéressant. J'espère juste que ça va être un peu plus rapide là, pour ce qui est de l'enquête de l'UPAC que celle qu'on a faite dans d'autres dossiers. Mais au moins, ce qu'on peut apprendre ce matin, c'est qu'à Québec, juste en face du palais de justice de Québec, il y a les fameux bureaux de l'assurance automobile du Québec. Bien, l'UPAC est là présentement.
Oui, c'est sur le boulevard Jean-Lesage. Puis il y a du monde qui se demandait c'était quoi les policiers là, un peu plus tôt ce matin. Bien, c'était justement ça. Il n'y avait pas de déclaration officielle encore faite, mais c'est sorti un petit peu plus tard. Dans le fond, il y avait une ordonnance de non-publication là-dessus parce que justement l'enquête et le dépouillement des lieux étaient en train de se faire et étaient en direction. Ce qu'on dit, c'est que la SAQ collabore avec l'UPAC en ce moment. Donc, ils vont tout fournir ce qu'il faut. Perquisition qui arrive quand on a été très loin dans l'affaire Galland avec l'ex-PDG Denis Marsolais. C'est lui qui était aux commandes de la Société d'État quand on a démarré SAQ-CLIC en février 2023. Donc, on est là-dedans. C'est énorme. C'est énorme comme dossier.
Un autre rapport de Statistique Canada qui est sorti, puis j'ai le goût de te poser des questions. Dans tes 30 dernières années de vie, là, c'est quand que tu as été le plus en contact avec tes amis? Est-ce que c'est maintenant ou c'est avant?
Je dirais 17-22. Mais ouais. Même pas, là, 15-22.
Moi, je te dirais que c'est à peu près 15-30 ans. 15-30 ans, je voyais régulièrement mes chums de gars. J'avais quelques chums de filles, mais c'était plus des filles avec qui je travaillais, avec qui j'étais peut-être un peu plus proche.
Je les vois encore beaucoup à 31 ans, mais rien à voir avec quand t'es à l'école, tu sais, ou que tu les côtoies chaque jour. Moi, c'est mes collègues que je côtoie chaque jour maintenant.
En 1986... Nos amis, Pascal, on les voyait à peu près à 47,9% du temps. Et en 2022, parce que j'ai les stats de 2022 ici, là, 2022, c'était rendu à combien selon toi? Fait qu'en 1986, c'était une journée sur deux, on voyait nos amis. En 2022, on est à 19,3%.
Mais t'es-tu vraiment surpris de ça?
Ben, l'ère d'Internet été un cancer, là.
Les gens préfèrent se parler sur Messenger que se voir, là, des fois.
La télé où tu peux écouter un bon film à la télé que tu choisis sur demande est un cancer aussi. Les gens ont un cercle social beaucoup plus diminué, plus tu vieillis. Ça aussi, c'est normal. Quand tu commences à avoir des enfants, quoi qu'en 1986, il y a des gens qui avaient des enfants aussi, là. Mais quand tu commences à avoir des enfants, ça devient un peu plus compliqué d'être avec tes chums célibataires, mettons.
Ouais, c'est vraiment les réseaux sociaux, moi, je pense qu'ils ont changé la donne, là. Puis les TikTok de ce monde, les Instagram, t'as l'impression d'être en contact avec quelqu'un, mais c'est que du contact, justement, virtuel. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis j'en ai, là, du monde, là, que t'es en groupe, puis ils vont utiliser leur sel. Ils sont en date, ils sont avec la personne qu'ils aiment, puis ils utilisent leur sel. J'ai l'impression que je suis vieux jeu, là. Mais moi, je trouve ça bien difficile. Tu fais tout le temps des reproches à mon égard, puis ils sont corrects, tes reproches, parce que sont vrais, que je réponds pas vite. J'essaie de m'améliorer, mais quand je suis en congé ou quand je suis le week-end, ben je priorise les gens avec qui je suis. Tu sais, la conversation dans les yeux, passer du temps de qualité. Je me dis, crime, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va me rester? C'est la qualité de mes relations.
Mais ça, c'est ta portion à toi, parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire les deux sans impacter la personne aimée ou les amis.
Absolument, mais encore là, ils posent aussi question. Tu sais, est-ce qu'eux vivent le vrai contact?
Le rapport rapporte que la baisse la plus marquée qui est enregistrée chez les personnes en âge de travailler, donc de 25 jusqu'à 64 ans, où la probabilité de voir les amis lors d'un jour moyen est passée de 42 % en 1986 à 14 % en 2022. Hey, c'est 36 ans d'écart, là, Pascal.
Mais là,
on va-tu encore se voir dans 50 ans avec les amis?
La question se pose, là. Honnêtement, les jeunes demandent à n'importe quel enseignant, dans les 10 dernières années, là, la façon dont les jeunes interagissent dans les classes. Ce qui les sauve en ce moment, c'est probablement Bernard Drainville avec l'empêchement d'avoir un téléphone cellulaire dans les classes et tout, là. Mais dans les couloirs, les corridors, l'agora ou peu importe, quand ils sont en pause, là, le cellulaire est broché sur leurs mains. Puis ils vont même jaser entre eux sur justement leur boîte de conversation TikTok ou Messenger avant de faire le tour de la classe pour aller rejoindre à 300 pas l'autre ami. Ouais. Ils vont avoir des groupes virtuels pour communiquer. Puis tu le vois, je comprends qu'on n'est pas au Japon, mais souvent les tendances sociales avancent vers l'Occident dans les grosses communautés-là où c'est peuplé. Tu as l'Inde, tu as la Chine, tu as le Japon. Puis ils en parlent de cette solitude-là qui cause énormément de problèmes de santé physique. Puis quand tu retournes vers les communautés en Amérique du Sud ou qui n'ont pas nécessairement toutes les mêmes possibilités que nous autres en termes de réseau puis de modernité, ils vivent plus longtemps, ils sont en meilleure santé justement par l'aspect social puis le fait d'être en réel contact avec les gens. Tu parles des relations sexuelles à plein de sexologues en ce moment. Il y a des jeunes qui bandent plus parce qu'ils sont trop habitués par l'écran virtuel d'avoir leur érection, d'avoir leur jouissance. Puis ils arrivent devant une femme ou un homme, peu importe, puis le contact physique, ils sont comme mal à l'aise avec ça, ils ne savent pas comment s'y prendre.
Ah ouais.
Oui, puis les sexologues, ce qu'ils disent et qu'ils
donnent... Moi, ça me fait plaisir, ça.
Comme truc, c'est de se réapproprier tous les sens quand ils font l'amour, que ce soit l'odeur, que ce soit le toucher, que ce soit... Parce qu'ils sont totalement déconnectés.
Ça me fait plaisir, ça, quand ces gens-là, ils bandent plus.
Parce que ça te laisse la place.
Ça nous en laisse plus pour nous autres.
C'est bizarre. Je suis rendu à être capable de faire tes jokes de mon oncle.
Pour les personnes qui ont vu leurs amis, le temps moyen passé avec leurs amis est passé de 5 heures par jour en 1986 à 3,8 heures en 2022. Donc, même le temps que tu passes avec tes amis est moins élevé qu'avant. Puis je fais partie de ceux-là. Moi, j'aime mieux, plutôt que de passer une journée avec mes chums, j'aime mieux aller manger au restaurant ou aller prendre un verre, puis après ça, quitter. Tout simplement, aller chez nous.
T'as une demi-journée, mettons?
Une demi-journée. Parce que, tu sais, on a juste 2 jours par semaine pour faire toutes nos affaires.
Ouais.
Quand t'as une maison aussi, puis il y en a qui ont des maisons, ils ont des chalets, ils ont des bébelles, les 4 roues pour les enfants, les bateaux, toutes ces affaires-là. Des fois, de t'occuper de tout ton petit univers, là, ça prend énormément de temps. Fait que moi, je fais partie de toutes ces gens-là qui se disent « Hey, ça me tente de te voir, on va aller manger au resto. » 2h30, 3h, c'est fini, bye.
Fait que ça te tente pas de temps de le voir. Tu prends des nouvelles, mais ça va pas plus loin.
Mais c'est juste que c'est du temps de qualité, Pascal.
Je le sais pas. Moi, c'est-tu le temps de qualité? C'est en fin de semaine avec ma famille, dans un chalet, les portes fermées, pas trop de réseau cellulaire, puis juste nous à s'occuper, là. L'épicerie est faite 2 jours d'avance, puis il y a pas de commission qui se fait là. Ça, pour moi, c'est du temps de qualité. À jouer sa plage, à s'ennuyer, à voir les enfants dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ça, ça me tente.
On dit que c'est. Moi, mais quand mes enfants viennent
me voir, j'ai pas d'enfants.
Quand les enfants viennent me voir, ils me disent « Papa, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire. » Ils sont dans la maison, okay? Ils sont entourés de jeux, ils sont entourés de casse-tête. Ils adorent jouer aux échecs, mais là, on dirait que depuis 2-3 semaines, ils veulent plus rien savoir des échecs. Peut-être que leur influenceur favori a décidé que les échecs s'étaient rendus pourris. Mais quand ils viennent me voir pour me dire « Papa, on n'a rien à faire dans la maison. » À cette heure-là, je fais juste entre-ouvrir la porte.
De l'entrée.
Puis en 2 secondes, ils trouvent quelque chose à faire.
Parce qu'ils ne veulent pas sortir.
Parce que je leur dis, il y a un monde dehors. Vous pouvez aller
ils
dehors.
Ils sortent plus, hein?
Je les oblige. Moi, je les oblige. Je suis tannant de même, là. Je suis vraiment un tannant.
Et nous autres, ils barraient. Je pense que la DPJ aurait pu venir, je ne sais pas trop, mais nous, ils barraient à la porte, les parents.
Bien, je le fais moi aussi.
Puis avant de, mettons, sortir, tu mets ta soute d'hiver, puis tout ça. Puis là, oh, j'ai envie de pipi. Là, tu renlèves ta soute. Puis écoute, si tu en mettais une deuxième fois, tu sortais dehors, puis tu allais t'amuser. Mais nous autres, c'était quasiment un privilège. Hey, on attendait d'être gelé, on avait des anges là, puis rentrer à la maison, il fallait qu'ils crient à 2 pâtés de maison. Avec les. Je comprends, là, je sais que la vie n'est plus la même, puis il faut s'adapter à, mais j'ai une amie qui est enceinte en ce moment, puis elle se pose bien des questions sur
moi, comment
elle va
faire. Moi, j'ouvre la porte patio, puis je les mets dehors, je ferme la porte patio, puis ils me regardent pendant 2-3 minutes, puis après ça, ils passent à d'autres choses.
Ils te regardent dans la porte patio.
Ouais.
Mais tu sais, toi, c'était... ben là, t'es là déjà, mais tu t'es-tu posé la question? Quand la mère de tes enfants est enceinte, de dire « Tu fais quoi avec ça? » Parce qu'ils sont obligés d'être entourés d'écran. Les amis en ont. Hey, c'est une pression pareille.
Oui, il n'y a pas de pression avec les amis. On n'est pas le même père. Les autres, ils ont un père.
Okay, fait que tu dis comme ma mère a dit, mettons, si je jette tout en bas du pont, vas-tu te changer?
Je dis même pas ça. Je dis ça, c'est un excellent père. Là. Moi, je suis un mauvais père. Fait que vous allez aller jouer dehors, puis vous allez aller trouver des amis ou vous allez jouer ensemble. Je suis vraiment un mauvais père. Statistique Canada indique que cette tendance coïncide avec le nombre croissant de Canadiens qui craignent de ne pas suffisamment avoir de temps avec leurs amis ou leur famille. C'est 46 % des répondants qui partagent ce sentiment en 2022 contre 34 % en 1992. Les Canadiens qui sont âgés de 15 à 24 ans ont également vu la probabilité de passer du temps avec leurs amis au cours d'un jour moyen diminuer de plus de 30 % de pourcentage au cours de cette période, bien que les plus jeunes demeurent les plus susceptibles d'avoir ces interactions, soit 41 % en 2022. Et on montre également que les Canadiens se sentent plus pressés par le temps que jamais depuis le début de la collecte des données en 1990.
Ça, j'y crois.
Près de 25 % des répondants déclarent ressentir une pression contre 15 % 3 décennies plus tôt. Fait que le temps passe plus vite.
Moi, je suis tellement contente qu'il y ait un peu cet aspect-là qu'on surfe là-dessus, mais je suis sûre qu'avec le stress, avec la maladie du siècle, l'anxiété, ça a miné les relations aussi. Fait que pas juste les réseaux sociaux, mais le fait qu'on a des journées embourbées. Tu dis, on a 2 jours pour faire nos tâches la fin de semaine, pour faire le ménage de la maison, pour faire les commissions, préparer les enfants, rattraper le retard de la semaine et tout ça.
Préparer les repas de la semaine?
Les repas, les petites tout. Puis la semaine, ça roule, ça fait pas de sens. Je suis certaine que ça a un impact parce qu'avant, c'était plus relax. Donc, quand un voisin arrivait puis allait te parler pendant 30 minutes dans le cadre de porte, t'étais pas comme « il va-tu sacrer son camp? » Ça me paraît-tu d'en face que je suis juste sympathique, mais qu'il faudrait qu'on arrête la conversation parce que j'ai 150 choses à faire. Tu sais, avant, c'était comme hey, « salut Martin, ça va? » Puis là, tu te pétais une conversation, ça pluie beau temps. Mais...
Ouais. En Beauce, c'était ça. En Beauce, là, on se voisinait, puis on se saluait, puis on passait du temps ensemble. Mais quand ton voisin arrive, tu le connais pas encore, puis il a 2 bières dans les mains, puis il t'en donne une, tu comprends qu'il faut que tu passes un peu de temps avec. En ville, tu sais, moi, je suis un gars du centre-ville de Québec, on se saluait, mais on se connaissait pas tant. Moi, j'habite présentement à Val-Bélair, puis mes voisins, je fais juste leur envoyer la main, là.
Oui, mais au moins, t'envoies la main. Mais tu sais, mettons que quelqu'un s'en vient cogner chez toi, puis c'était pas prévu. Tu l'aimes? Tu l'apprécies, c'est une personne que tu apprécies.
Si il vient
D'après
cogner.
D'après moi, tu réponds pas.
Si la madame à côté, elle vient cogner chez moi, je m'attends à ce qu'elle soit dans le trou. Il manque quelque chose, elle a okay. besoin de quelque chose.
Mais mettons, j'élimine ça, t'es sûr qu'elle est pas dans le trou. Tu réponds-tu tout le temps?
Je la comprends de venir cogner à ma porte, mais je suis désolé.
C'est sûr, c'est ça. Même on répond pas. Ben là, moi, c'est ça, c'est Témoin de Jova qui m'agresse. Attends, si j'ai encore une invitation là, sur ma porte. Là.
Oui.
Là, c'était pour un party.
Ça te fait quelqu'un qui jase.
Je pense que je vais me convertir. On m'attend d'ici en sortant si je dis ça en nom de trois fois.
Puis ça revient un peu à ce qu'on disait, là. Comment on explique ça, le fait qu'on côtoie moins notre famille, moins les amis, c'est vraiment les connexions. C'est l'arrivée d'Internet qui fait en sorte qu'on peut se parler par image vidéo maintenant avec Messenger. On peut se louer un film sur demande sans être obligé de sortir au club vidéo. Moi, c'était une sortie pour moi. Là.
Mais c'était le fun.
C'était exceptionnel. Le vendredi, on allait avec nos amis puis on s'en allait choisir un film en gang ou avec ta copine du moment. Puis après ça, on allait écouter le film à la maison dans l'espoir que sous la même doudou, sur le même divan, il peut aussi y avoir des rapprochements. Des rapprochements.
Hey, toi, là, ça fait 30 minutes que tu nous parles de rapprochement. Y a-t-il quelque chose que tu as à nous dire, là?
Oui!
C'est besoin.
On a une pause bientôt. Les Delaware Chuck s'en viennent avec Megastar sur Boulevard. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Lise Bilodeau de l'ANCQ. Elle s'occupe des gars qui sont un peu dans le trouble avec leur ex puis qui ont des fois besoin d'argent ou besoin de ressources supplémentaires pour se sortir de cette mauvaise passe-là.
Puis il y aurait une diminution de ces subventions-là pour les aider. C'est ce qu'elle vient déplorer.
Exact. Les Delaware Chuck, Megastar sur Boulevard, 418-971-1021, 418-971-1021. C'est par texto s'il se passe quoi que ce soit sur la route. Je vous rappelle que dans le secteur du Palais de justice de Québec, en face, c'est la SAAC. Bien, il y a une descente de l'UPAC! Pour le fameux dossier de Saclic, on en parle tantôt. 10h42 minutes, Audrey Pinchot qui est en vacances et Pascal qui la remplace. Audrey est partie pour quoi? 2 semaines à peu près?
Oui, en Italie, la chanceuse.
J'ai jasé tantôt, elle m'a pris une belle photo. Elle était avec son frère, elle était côté passager et elle a pris des photos de la température. De ce qui se passait autour d'elle. Et visiblement, c'est beaucoup moins gris là-bas qu'ici.
Ah non, je pense qu'au Québec, on est plus chanceux aujourd'hui, vraiment. Okay. Là, avec la pluie qu'on a, là, c'est super confortable.
C'est 20 degrés sur Québec. À certains moments, il pleut à boire debout, comme on disait dans le temps. Nuageux avec 60% de probabilité d'averse. Cet après-midi, on parle de risque d'orage avec un maximum de 26 degrés. Avec le facteur humidex, c'est une température ressentie de 33. Demain, jeudi, de la pluie avec encore là des risques d'orage en après-midi, entre 20 et 30 mm annoncés, maximum de 22. Et vendredi, ce sera des averses avec un maximum de 24 degrés. Pascal, je te présente Lise Bilodeau qui est fondatrice de l'ANCQ. Qu'est-ce que l'ANCQ? C'est l'Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec. Salut Lise.
Bonjour.
Ça fait déjà quoi, 2 fois qu'on se voit en peu de temps. J'espère qu'on va en prendre l'habitude. Il faut défendre nos hommes.
Ah, on n'a pas le choix.
Une femme qui défend des hommes, Pascal. C'est rare qu'on voit. On voit ça?
Ah ben écoute, ça n'a pas toujours été rigolo.
Ben non.
Mais après 26 ans, disons que j'ai mes plumes.
Ouais.
J'en ai pas trop perdu.
Quand tu as parti cette association-là, tu nous en as parlé la dernière fois. Bon, il y avait des choses qui étaient en place pour que tu partes cette association-là. Voilà, je l'ai eu. Est-ce que tu pensais te rendre aussi loin?
Non.
Non?
Parce que je croyais, moi, qu'avec les années, les choses se régleraient. Au début, là, c'était tout petit, mignon comme tout. C'était un groupe de femmes qui étaient venues me rencontrer parce que, bon, probablement que j'avais du guts, passez-moi l'expression. Et elles se plaignaient que leurs hommes divorcés, là, j'entends, les pensions alimentaires étaient atroces puis ils vivaient dans la mendicité.
Ouais.
Alors, moi, j'ai parti le bal avec elles. J'avais des madames de partout. Et graduellement, avec le temps, ben, j'ai perdu mes madames, mais moi, j'ai continué à rester sur place et continué à défendre pas juste l'histoire des pensions alimentaires à vie, parce que la pension alimentaire à vie te succède après ta mort d'un an. Le monsieur décède, puis après sa mort, l'ex peut aller chercher encore un an de pension alimentaire. C'est bien écrit dans le Code civil. Alors nous, on s'était bien élevés contre ça. Fait des mémoires, été à Ottawa, reçu par les sénateurs. Bon, j'ai brassé pas mal. Puis, graduellement, les madames vieillissant, voyant que les gouvernements n'étaient pas intéressés à faire quoi que ce soit, moi, je me suis élargie. Et j'ai été chercher, là, on commençait à parler de tout simplement de gens qui ne se mariaient pas. peut-être pas. Hein, dans le temps de Mme Goldwater, moi, c'était pas mal, mon. Oui. Parce que tu sais que j'ai œuvré fort, je peux bien vous le dire maintenant, parce qu'elle, je l'avais poursuivie.
Avec Mme Goldwater. Oh,
oui, j'ai poursuivi Mme Goldwater pour ses, comment dirais-je, ses phrases qu'elle faisait à la radio, vous traitant de torchon, de n'importe quoi.
Parce qu'elle est un peu de l'autre côté du spectre.
Oui, bien que là, de ce côté-ci, de cette fois-ci, elle est de mon bord. Mais anyway, je me suis battue contre elle. Je te dis pas que j'ai gagné, mais j'étais fière pareil, parce que j'avais été capable de prouver que les discours étaient drôlement dégueulasses quand il s'agissait des hommes en nombre dans ce temps-là.
Oui, mais comment on peut accepter qu'une société accepte le fait qu'on purge complètement un homme et qu'on donne tout de l'autre côté pendant que lui ne peut même plus recevoir ses propres enfants dans un lieu décent? Comment on peut accepter ça en tant que société? J'ai toujours pensé, Lise, puis tu vas me dire, ouais, Yann, t'as souvent été sur un nuage quand je t'ai parlé, mais j'ai toujours pensé que l'égalité, là, autant d'un bord comme de l'autre, ça existait, parce que la justice, là, c'est comme les balances. Là, c'est supposé être, on est supposé être égal avec tout le monde. Puis quand je te rencontre, à chaque fois, je me dis, mais bon Dieu, pourquoi on a toujours privilégié le bien-être de madame au détriment du bien-être de monsieur qui, lui, est incapable de nourrir ses propres enfants de son côté?
C'est un credo. C'est, qu'on le veuille ou non, c'est comment je te dirais ça, que je t'explique ça en deux mots simples et que les gens me comprennent. C'est un problème féministe. Moi, ouais. Je peux pas. J'écoute, je me suis battue contre ça tout le temps. Avec le temps, l'expérience de terrain, c'est, puis tout ce que je vis, peu importe la couleur du gouvernement, c'est qu'on va toujours prioriser le côté féministe des choses. Et les gars, pour que ça fonctionne bien, que ce soit un député ou que ce soit un ministère quelconque, on va toujours aller du côté de la femme. Tant pis si elle a tort, c'est la femme qu'on va privilégier. Je suis obligée de le dire après 26 ans de service. Pourquoi? C'est que tous les jugements que j'ai lus sont tous à mon bureau. Tous les gens que j'ai rencontrés, il n'y a personne, je pense sincèrement, du plus profond de mon être, qui est venu me conter des histoires. Je pense que sincèrement, ils ont été lessivés, balayés du revers de la main, tant par la justice que par autre chose.
Lise, t'as eu des gars qui dormaient dans le char?
Ah oui, oui, puis c'est assez récent, l'année passée, je te l'ai raconté ce printemps quand on s'est vus, le monsieur m'est arrivé avec deux enfants. Deux petits-enfants dans sa voiture. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on était un couple. Elle avait trois enfants, j'en avais deux. Bordel a pris. Elle m'a mis dehors avec mes deux enfants. Moi, je n'ai pas mes parents parce que c'est un type qui venait du bout de cette île. Et ses deux parents étaient décédés. Je vais où? Je fais quoi? Il n'y avait rien pour les gars, là. Alors, j'ai appelé à certains endroits à Québec. Non, non, il faut que tu passes au comité. Moi, je n'ai pas question de comité quand j'ai le papa avec deux enfants dans mon bureau.
C'est quoi votre présomption de croire à travers les années? Est-ce que c'est parce que, justement, bon, il n'y a pas eu ces endroits-là ou cette place-là laissée aux femmes pendant un bon bout, qu'il y a un débalancement qui s'est produit à travers les années en ayant mis plus de mesures pour les femmes, puis qu'on a oublié de parler d'intégrité pour tout le monde, finalement?
Non, écoute, j'en parlais justement hier... à quelqu'un, je parlais de mon père, et mon père était un homme de bois à l'époque, m'a payé des études aux Ursulines à Gaspé. Et quand mon père m'a vu me lancer là-dedans, il me disait toujours « fais attention, papa, à l'époque, ça s'appelait féministe. » Il me disait « il y a des femmes qui ne sont pas toujours gentilles envers les hommes, puis oublie pas où ce qu'on a vécu, oublie pas qu'est-ce que je faisais. » Tu sais, on savait quel homme n'était pas correct avec sa femme, mais ce n'était pas l'ensemble du village que les gars battaient leurs femmes, que les gars étaient des Soulons. Et j'ai eu mon père un bon bout de temps au début de mon association, ça m'a équilibré énormément, parce que je dois vous avouer que j'étais vraiment nulle là-dedans, je ne connaissais rien du tout. Mais à force de m'instruire, à force de lire, à force de voir, à force de constater, il y a un penchant particulier. Comme je disais toujours à l'époque, quand je faisais mes émissions de radio, les femmes au Québec sont auréolées. Quand vous passez devant un juge, la femme est auréolée. C'est une sainte. Essayez rien. Taisez-vous. Qu'est-ce que j'enseigne à mes hommes après 26 ans qui vont en cours? Pas une larme. Tu fais une larme, t'es dépressif, on t'enlève les enfants. Ne te fâche pas, t'es violent. Avez-vous idée que je leur fais un credo, je leur fais un tableau avant qu'ils se présentent en cours, parce que le moindre geste, le moindre regard à madame, oh, il est violent. Mes hommes vivent ça, mais on ne veut pas l'admettre. Alors, je réponds à ta question, c'est que pousser le bouchon un peu trop loin avec le féministe donne ce que ça donne aujourd'hui. Et ça, comment dirais-je, ça déséquilibre, je réponds à Yann, ça déséquilibre notre société, parce qu'on doit toujours mettre en avant les femmes. La preuve, le plan d'action ministériel que le gouvernement, pour la santé des hommes, que le gouvernement a retourné du revers de la main, mais tenez-vous bien, le gouvernement m'a fait ça quand? Il m'a fait ça quelques jours avant la fête des pères. Quand j'ai fait une émission à TVA, j'ai dit tout simplement aux journalistes, et puis, est-ce que vous pensez qu'on m'aurait enlevé au gouvernement un projet, un plan de cette ampleur-là, le jour ou l'avant-veille de la fête des mères?
Ben
non.
Ben non, ben
non. Non, ça ne se fait pas. Alors, je réponds à Yann, comment cela se fait-il que dans ma société, on favorise toujours en 2025 les femmes. Sommes-nous si mal prises que ça au Québec? À l'âge que j'ai, que je travaille comme je veux, je fais ce que je veux, je vis bien. J'en ai des quantités de femmes comme moi. On a tous travaillé à mon époque. Hein? On sortait de nos maisons pour travailler. On est-tu si mal pris que ça? Moi, je pense que sincèrement, la société, elle doit se poser une question, Yann, puis une sérieuse. Parce que, écoutez...
Mais ça, est-ce que ça s'est amélioré? Parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père n'était pas dans le décor, fait que ma mère n'avait pas de pension alimentaire, bien entendu. C'était une jeune femme monoparentale avec un bébé, puis elle a dû me confier à une famille pour pouvoir aller travailler en semaine, puis je la voyais la fin de semaine. Mais il n'y avait pas de pension alimentaire. Puis à un moment donné, ben, le gouvernement a dit ben ça va être une pension alimentaire obligatoire, parce qu'il y en a qui ont failli à la tâche de... donner à l'enfant qui était chez la mère le pouvoir de manger 3 repas par jour. T'sais. Il y en a qui se sont sauvés. Il y a des gars qui se sont sauvés dans le temps.
T'sais. Oui, il y en a. Puis vous savez que c'est Louise Arel qui a parti le bal. Et j'avais justement des gens avec moi à l'époque, parce que nous aussi, on commençait, ouais. 1999. Mais il fallait assister à ce plan d'action-là. Il fallait assister à cette table de concertation-là pour savoir ce qui s'est dit contre les hommes. Et Louise Arel était une diablesse. Ouais. Genre, les hommes, c'était tout à abattre, ces bébites-là. C'est aussi simple que ça.
Ça doit être complexe, puis ça nécessite quand même un bon doigté de manœuvrer là-dedans, dans le sens où, bon, le féminisme, c'est une chose, le féminisme extrême en est une autre. Quand c'est des positions qui sont fermées, finalement, puis il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de nuance, il y a pas de... C'est là que ça devient très désagréable. En même temps, il ne faut pas oublier ces luttes-là. La même chose du côté de l'homme. Il ne faut pas être dans les extrêmes des deux côtés. Il faut sûrement un bon doigté pour ne pas être peinturé comme étant à la défense des hommes, mais plutôt à la défense des victimes dans ces cas-là.
J'ai pas le choix, parce que les hommes, il n'y a rien. Moi, quand j'ai commencé, c'était, comme je te dis, j'insiste, c'était un groupe de femmes. Et ces femmes-là sont venues témoigner de ce que vivait leur homme. Donc, c'était pas les gars qui sont venus se plaindre. Les gars, ils viennent jamais se plaindre. Les gars viennent me voir quand ils sont là.
Ces mères-là, ces femmes-là devaient se dire, ben mes enfants en souffrent aussi de ça, clairement.
C'est parce que, justement, quand tu traites... Ben, voilà, ça, si on recule dans le temps, quand tu traites le père comme un torchon, quand tu traites le père comme un gnochon...
Tu traites les enfants aussi de la même manière.
Mais c'est, tes enfants, là, c'est ce qui pousse dans la société, là. Quelle sorte d'image qu'ils ont de l'homme? Pense-y. Puis souvent, c'est des hommes eux-mêmes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des hommes ou ça fait ce qu'on vit aujourd'hui? Des gens qui ont de sacrés problèmes mentaux. Et de sacrés problèmes mentaux, puis c'est pas écrit dans ta porte chez toi. Qu'est-ce que j'ai vécu, moi, dans mon passé? Ta mère t'a aimé. Moi aussi, je l'ai jamais crié chez toi, mais je l'ai été monoparentale. Mm-hmm. J'ai un fils extraordinaire, puis ça fonctionne. J'en ai jamais voulu à tous les hommes de la Terre pour ça. Point un trait à la ligne. Mais comme tu dis, je suis capable de faire la différence. Féministe, je le suis. Mais je ne suis pas une extrémiste. Je ne suis pas une déviante. Et un jour, il faudra se réveiller. Parce que justement, je te parlais du plan ministériel de la santé et du bien-être des hommes. Ce qui m'a horripilée, c'est simple. Puis n'importe quelle femme qui pense comme moi va penser la même chose. On coupe ça 2-3 jours avant la fête des pères. Est-ce qu'on aurait fait la même chose pour la fête des mères? No way! Mettez-moi un équilibre dans ma société. Mettez-moi une équité. Une équité. Quand je disais à Yann tout à l'heure, on se pose jamais la question, qu'est-ce que le système judiciaire fait pour mes hommes? C'est un drame. Quand on parle de table de fixation de pension alimentaire pour les hommes, c'est plus qu'un drame. Vous perdez tout. Vous n'avez pas le droit de déclarer les pensions alimentaires que vous versez. Donc, c'est cash. Vous avez... obligatoirement.
Si je verse une pension alimentaire à mon ex-conjointe qui est mère de mes enfants, mm-hmm. je ne peux pas le déduire de mon rapport d'impôt.
Non.
Fait que le gouvernement calcule que cet argent-là, je l'ai gagné, je l'ai gardé pour moi.
Ben, pour le gouvernement, c'est que tout simplement, tu ne peux pas faire une déduction. Disons que tu donnes, je ne sais pas moi, 4, 5, 6, 7 000 $ par année en pension alimentaire. Tu ne peux pas les déduire sans impôt. C'est terminé. C'est comme si c'était de l'argent jeté au panier. Par contre, les madames, elles ont le droit de déduire. Les hommes sont frustrés de ça, sont frustrés profondément parce que c'est un manque de respect. Qu'est-ce qu'on donne aussi? On donne automatiquement, systématiquement. J'ai travaillé toute ma vie. Tu penses que mon patron me donnait une augmentation de salaire à tous les mois de janvier? Systématiquement, à tous les mois de janvier, elles ont l'augmentation du coût de la vie. C'est le deuxième facteur qui agresse. Le troisième facteur, il est pire, c'est les frais particuliers. Écoute, j'ai des avocats, moi, qui travaillent pour moi. Et qu'est-ce qu'on me disait? Parce que moi, j'ai siégé à la table de fixation de pension alimentaire en 1999. Ça ne me rajeunit pas. On avait caché les frais particuliers. Les frais particuliers, ça, c'était pour les parents qui ouais. avaient des enfants handicapés. Aujourd'hui, je suis certain qu'ils m'écoutent, le maître en question de me dire, écoute, Lise, il ne se fait pas une requête sans qu'on mette les frais particuliers. particuliers. Et il poursuit. Les frais particuliers, c'est quoi? C'est ce qui fait que nos enfants, lorsqu'il y a une rupture, sont riches. On oblige l'école privée, ce qu'on faisait pas avant. On oblige les services d'orthodontie. Moi, j'ai eu le cas où la dame, je pense que je te l'avais conté, a fait casser la mâchoire de sa petite fille de 8 ans parce qu'elle n'aimait pas son visage. Quand le monsieur a reçu le compte, il a failli mourir, il a failli se tuer sur Avin parce qu'il conduisait un camion. Alors, on a gagné cette affaire-là, mais quand même, sur le moment, le monsieur a resté surpris. 25 000 piastres de frais à lui charger automatiquement. Les frais particuliers, c'est un drame pour les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une rupture? Bien, ils paniquent, puis ils n'ont plus d'argent. Pour revenir au monsieur avec ses deux petits-enfants,
oui.
Il s'est replacé. On a trouvé, écoutez, je connais beaucoup de monde, on y a trouvé un logement assez rapidement.
Rapidement, tu y as trouvé un logement?
Oui, oui, écoute, je connais beaucoup de gens. Genre, mets le CA là-dessus, puis on trouve un logement. Premier mois, on le paie. Et lui, il travaillait, justement, il travaillait dans le Nord. Puis pour vous montrer comment c'est juste, la pension alimentaire, c'est que lui avait des vêtements hydrofuges que la compagnie lui payait. Puis il mettait l'argent sur sa pension, c'est-à-dire sur sa paye, pardonnez-moi. Et qu'est-ce qu'il est venu me montrer? C'est qu'on saisissait nécessairement le 300 $ qu'on lui donnait, aux 2 ou 3 mois, pour renouveler ses costumes et ses bottes. Alors, c'était saisi, ça passait dans la pension alimentaire.
En plus?
En plus. Alors, ce n'est pas le premier cas que j'ai eu comme ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous donc à leur place.
Ouais.
Pensez donc comment se réalisent ces gens-là. Ils sont frustrés, ils sont blessés. Puis il faut qu'ils continuent à payer la pension alimentaire. Moi, je devrais dire, mes hommes vivent peut-être dans leur auto ou dans les stationnements du gouvernement à l'été, mais les pensions alimentaires sont payées.
Oui, puis c'est un message comme ça, mais moi et mon ex-conjointe, on s'est toujours dit ça, c'était important pour nous de bien se traiter de part et d'autre pour donner un exemple à nos enfants avec leurs futurs conjoints-conjointes.
Oui!
Parce qu'ils vont reproduire le modèle qu'ils ont eu à la maison. Là. Donc, si c'est un modèle qui est extrêmement toxique, sans le savoir, plus tard, ils vont avoir ça ancré en eux, puis ça se peut que ça vire.
Ou ben oui. Inconscient. Puis ça, en psychologie, il développe beaucoup la relation familiale, même il y a des parents des fois qui se posent la question, devrais-tu se séparer?
Oui.
Parce qu'on ne veut pas briser le noyau familial. Mais un enfant va absorber l'immensité des tensions, du non-amour, du manque de preuves d'affection, de façon consciente ou inconsciente. Fait que les parents qui se culpabilisent en disant, ben là, on va se séparer puis on ne devrait pas. Mais parfois, vous allez aider votre enfant à concevoir l'amour d'une meilleure manière que ce qu'ils ont devant eux.
Exactement.
Parce que ça fonctionne.
Plutôt que de se batailler continuellement.
Des beaux commentaires, Lise Bilodeau, qui rentre par texto. En passant, on est avec Lise Bilodeau, qui est fondatrice de l'ANCQ. C'est l'action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec par texto. C'est le 418-971-1021. Madame Bilodeau, c'est un ange descendu du ciel. Je suis une nouvelle conjointe qui l'a contactée il y a de ça 5 ans pour aider mon chum à garder contact avec ses enfants. Merci beaucoup, Madame Bilodeau.
Merci infiniment. Ça me revient de temps en temps.
Puis c'est des filles qui t'envoient ce message-là.
Ben parce que j'ai les conjointes, j'en parle jamais. Mais écoutez, quand les hommes viennent me voir, ils sont souvent accompagnés, de maman ou de la conjointe.
Parce que Lise, t'es tellement passionnée, puis t'es tellement fâchée, des fois, de l'injustice qui peuvent toucher tes gars, que des fois, les filles peuvent te percevoir comme une ennemie numéro un à abattre en disant « Elle déteste donc bien les femmes », mais au contraire.
Si tu savais que j'ai aidé des femmes dernièrement, puis je ne le crie pas sur les toits.
Les policiers, t'en ont-tu parlé de ça? Quand tu leur demandes des subventions pour la NCQ, là, ils te le disent-tu? Voyons, Lise, mais ça, t'es pas du bon bord. Faudrait que t'aides les femmes, ça serait plus payant pour toi.
C'est très délicat pour eux, mais tu sais que je le sens. Au début, ça a été extrêmement difficile parce que tu sais que tout se passait à la maison. Quand j'ai mis 3 ans. En engageant quelqu'un pour m'aider à avoir cette subvention que j'ai. Et laissez-moi vous dire que, puis je le répète souvent à Yann, il doit dire, mon Dieu, tu radotes en vieillissant, mais le tiens-toi bien, sais-tu ce que m'avait dit le fonctionnaire en m'appelant chez moi? Premièrement, que j'étais illégale, que je ne devais pas faire ça dans mon sol, mais j'ai dit, j'ai pas d'argent, je ne peux pas payer un local. Et il m'a dit, de toute façon, Mme Bilodeau, si jamais on vous donne quelque chose, sachez bien que ce n'est pas pour éponger, j'oublierai jamais la phrase, sachez bien que ce n'est pas pour éponger les larmes des hommes. Est-ce que c'était clair que l'argent que je reçois actuellement, ça paie mon loyer, ma secrétaire et naturellement les documents qu'on fait parce qu'il faut payer quelqu'un pour se faire aider? C'est tout! C'est tout! Mais qu'est-ce que je fais, moi, pour aider les gars quand je paye un loyer, quand je paye une carte pour la pharmacie, etc., etc.? Bien, c'est les guignolés que je fais, c'est les adhésions, les dons que vous me donnez. Bien, quand on arrive, puis le monsieur me dit, là, j'ai besoin de bottes pour aller travailler, là, ça va bien, mais j'arrive pas à m'acheter mes bottes parce qu'ils coûtent 200 $. Bien, ils viennent boire les bilodos et on a payé les bottes en question. On a payé le monsieur qui s'est fait mal au dos. Vous savez, quand on arrive à la pharmacie, il faut que tu paies, tu vas chercher tes assurances après. On a payé la pharmacie. Alors, tous ces petits à côté, c'est moi qui le fais. C'est à partir de mes démarches, des sous que je rentre,
ouais,
qu'on met à part.
Est-ce qu'il y a des hommes qui vous sont revenus avec une situation peut-être plus favorable quelques années plus tard et qui ont voulu redonner au suivant?
Oh, ça vient tout le temps. Oh, ça vient tout le temps. Écoute, je fais des conférences. J'ai des conférenciers extraordinaires, exceptionnels. C'est là que je ramasse les gens. Les gens, quand ils viennent, c'est toujours gratuit, mais tu sais, après, ils me laissent toujours.